Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre fils, hein, parce qu'il nous aimait. Si vous pensez à cela, là, Adam a eu plus de mal que tout le reste des autres pour offrir un cadeau à son père. Hein? Avez-vous déjà pensé offrir un cadeau à celui qui possède tout? Dieu, qui était son propre père. Le rôle de papa n'est pas toujours évident. Hein? Je ne sais pas pour Adam s'il s'est réellement creusé la tête. Il avait un merveilleux privilège, comme on a aujourd'hui, de passer du temps avec Dieu. Mais le rôle de papa est souvent perçu d'année en année. Les papas viennent me voir avant le dimanche de la fête des pères. Puis là, David, la fête des mères, tu vantes comment c'est beau, puis ça grabe une mère. Puis la fête des pères, tu nous rentres dedans. Hein, avec les responsabilités, et puis, je penserais pas, là. Si vous vous sentez un petit peu bousculé, là, peut-être parce que vous avez besoin de vous renforcer un petit peu, là. Vous êtes trop mou, je sais pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais le rôle d'un papa est pas toujours évident, comme le rôle d'une maman. Hein, on a des défis au quotidien. On a des défis à lutter dans notre propre vie en tant que comme terrestre, et on peut chercher et on veut chercher à exercer ce rôle-là de la meilleure manière que l'on peut. Le privilège que l'on a à entretenir les liens familiaux, par exemple, quand il y a, tantôt on parlait d'arrière-grands-parents, arrière-grand-papa, grand-papa, papa, et les enfants, et toutes ces générations-là, Dieu nous donne le privilège que les générations avant nous communique des expériences qu'on peut pratiquer et puis même éviter. Un homme, un grand-papa est en train de communiquer à son fils et à ses petits-enfants des choses qu'il a apprises. Puis j'en ai répertorié quelques-uns que je trouvais bien intéressants. Cet arrière-grand-papa, il communiquait, il disait, « J'ai appris qu'on peut en dire long sur une personne juste de la façon dont il réagit devant trois situations. » Un jour de pluie, un sac de voyage perdu, puis des lumières de Noël tout emmêlées. On peut apprendre beaucoup sur les gens. Il dit, j'ai appris que peu importe la relation que tu as eue avec tes parents, tu t'ennuieras d'eux le jour où ils ne feront plus partie de ta vie. Il dit, j'ai appris la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Il communiquait aussi à ses enfants, ses petits-enfants, j'ai compris que tu peux pas toujours avancer dans la vie avec un gant de baseball dans chaque main puis essayer de tout attraper. Tu dois pouvoir lancer la balle à ton tour de temps à autre. J'ai appris, lorsque je décide avec mon cœur, c'est généralement une bonne décision. Il dit, j'ai appris que lorsque je souffre, j'ai pas à faire payer le prix aux autres. Et il y en a quelques autres comme ça, où ce grand papa-là est en train de communiquer à ses petits-enfants des choses qu'il a apprises dans la vie, et que nous, en tant qu'enfants, quand on a un papa ou un grand-papa, ou peut-être un arrière-grand-papa, bon, on a ce merveilleux privilège que d'apprendre de leurs expériences pour mettre en chose, en pratique des choses, ou peut-être même éviter certaines pratiques. Ce matin, j'aurais pu vous parler de Dieu, et ce qui aurait été une bonne chose, j'aurais pu vous parler de Dieu en parlant de lui comme l'Éternel, et ça aurait été bien. J'aurais pu vous parler aussi de Dieu comme le Dieu Tout-Puissant, qui a tout contrôle sur toutes choses. Et ça aurait été certainement très bien et très édifiant. J'aurais pu vous parler du Dieu très haut qui est souverain sur toute la nature, sur nos vies, sur toutes choses. Et ça aurait été sûrement très édifiant aussi. J'aurais pu vous parler de l'Éternel des armées, qui est toujours le même Dieu avec différents noms. J'aurais pu vous parler du rocher, de la forteresse. Mais ce matin, je vais vous parler de papa. Je vais vous parler de notre Père céleste. Dieu se présente de plusieurs manières, comme je viens d'énumérer. Mais Dieu se présente aussi comme un papa, comme notre Père céleste. Et j'aimerais qu'en regardant l'exemple de notre Papa céleste, qu'on puisse apprendre de lui. Évidemment, en tant qu'enfant de Dieu, ben on bénéficie de Dieu comme papa. En tant que papa terrestre, on bénéficie, oui, de Dieu comme papa, mais aussi comme un papa qui nous transmet des choses que l'on peut apprendre et à rendre aussi envers nos propres enfants. En prenant un exemple, Dieu est ce papa idéal, parfait, qui nous apprend à nous, Père, à reproduire ce qu'il est. Peut-être que je connais pas vos pères, chacun d'entre vous, personnellement. Peut-être que vous avez eu un père qui a été d'une éducation idéale, qui était assez ferme dans le bon temps, qui était assez indulgent dans d'autres circonstances. Mais peut-être que vous avez eu un père absent. Peut-être que vous avez eu un père trop dur ou trop mou. Ou peut-être un père où vous avez éprouvé de la crainte pendant plusieurs années. Notre Papa Céleste est le Père et le Papa parfait, idéal, quelle que soit la relation terrestre que l'on a eue avec notre Papa. Et nous, on a ce privilège-là que d'apprendre de lui et de reproduire le comportement de notre Papa Céleste et les comportements idéaux ou parfaits que lui peut nous communiquer. J'aimerais qu'on se rappelle, comme je disais tantôt, en tant que père, ou même en tant qu'enfant de Dieu, que si la marche est haute pour être ce père terrestre idéal, ou l'enfant de Dieu idéal, les ressources divines sont illimitées de la part de notre Papa Céleste. On peut toujours compter sur Papa. On peut toujours compter sur notre Père Céleste. On n'en sera jamais déçu. On peut toujours compter sur lui, puis c'est ce qu'on va voir ce matin. Trois certitudes qui nous montrent qu'on peut toujours compter sur lui. J'aimerais qu'on prenne un temps pour prier, que Dieu dispose nos cœurs, nos têtes, pour qu'on puisse être attentif à notre Papa Céleste. Seigneur, on vient devant toi pour te dire merci parce que tu nous as communiqué en tant que bon papa ta parole, ta volonté. On l'appelle la parole de Dieu et Seigneur, cette parole, elle est bonne pour nos vies parce qu'elle vient de toi. Ce matin, on veut l'ouvrir, on veut être attentif à elle, on veut être attentif à toi, à ce que tu nous dis. Et Seigneur, je te prie qu'à chacun d'entre nous, qu'à travers ton esprit, que tu viennes mettre ton doigt, Seigneur, dans nos vies, que tu nous fasses du bien, que tu nous emmènes peut-être, premièrement, en tant que papa qui nous sommes ici ce matin, que tu nous emmènes à considérer ce que tu veux nous apprendre pour reproduire nous aussi comme comportement envers nos propres enfants. Mais on se présente aussi et on va avoir cette disponibilité de cœur que tu viens de mettre ton doigt, Seigneur, en tant qu'enfant, pour que tu viennes nous parler, nous encourager et que tu viennes nous communiquer, Seigneur, ta volonté. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. On peut toujours compter sur papa. Quand je vais dire papa ce matin, je parle pas de mon papa, là. Je parle de mon Père Céleste. On parle de notre Père Céleste. Et on peut toujours compter sur notre Père Céleste à cause d'une première certitude, la certitude de son amour. On sera toujours sûr de son amour. On sera toujours sûr de son intérêt envers nous. C'est une fois un petit garçon qui marchait avec son papa, et puis le petit garçon était encore tout jeune, hein, émerveillé par un rien. Et le papa, qui, lui, est un peu moins émerveillé par ce que la vie lui présente au quotidien, ben marche avec son enfant. Et là, son enfant, il dit, « Papa, papa, t'as-tu vu l'avion? » Là, le père, il dit, « Oui, j'ai vu l'avion. » Ils continuent leur marche. Puis, « Papa, papa, t'as-tu vu le train là-bas? » Là, « Oui, j'ai vu le train. » « Papa, papa, t'as-tu vu la belle voiture? » Là, le papa est un petit peu tanné. « Oui, oui, je l'ai vu, là, la belle voiture. » « Papa, papa, t'as-tu vu? » »« Oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu. » »« Mais papa, pourquoi t'as marché dedans? » Hein, des fois, en tant que papa terrestre, on est un petit peu moins émerveillé et peut-être un petit peu moins intéressé à ce que nos enfants constamment peuvent vivre comme émerveillement. Mais si nous, avec le temps, Père Terrestre, on porte peut-être moins attention ou moins d'intérêt à l'émerveillement de nos enfants, ce n'est pas le cas de notre Père Céleste, qui est toujours intéressé. Toujours intéressé. Il nous aime sans fin. On peut être sûr de son amour. Et s'il y a des petites choses qui nous émerveillent, Dieu aime le voir. Dieu aime l'entendre. Dieu est ce papa qui constamment apprécie entendre ce qui émerveille ses enfants. Qu'est-ce que mes enfants doivent faire pour que je les aime? Rien. Qu'est-ce que vos enfants doivent faire pour que vous les aimez? Ce sont vos enfants. Quand même que... Je vais demander à mes garçons de boucher leurs oreilles, là. Quand même qu'ils deviendraient les pires bombes, je vais toujours les aimer. Ça ne veut pas dire que mon cœur ne sera pas attristé par leur choix de vie. Mais je vais toujours les aimer. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter l'amour de Dieu? On vient de chanter que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que le monde a fait pour qu'on mérite ça? Rien. J'ai rien fait. J'avais rien à faire. Dieu, notre papa, nous a aimés depuis le passé, depuis le moment où on pouvait être le plus laid, le plus désagréable, le plus pécheur qu'on pouvait être. Celui qui est devenu ton papa quand tu as placé ta foi en lui, il t'aimait. Il t'aimait déjà. Il a donné son fils pour toi, il a donné sa vie pour toi. Tourne avec moi dans Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 2. Je citais l'autre fois que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a manifesté son amour au moment où on était les plus pécheurs, les plus laids. Et dans Éphésiens 2, regardez à partir du verset 4 ce que ça dit. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ, et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Quand on prend le temps de regarder ce texte-là, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cet amour-là? Dieu est riche en amour. Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en grâce. Et si nos péchés coûtaient cher, si nos vies coûtaient cher à racheter, par l'amour de Christ, par l'amour de Dieu, il a payé le prix pour chacune de nos vies. On a la certitude de son amour en se rappelant qu'au moment où j'étais le pire dans ma vie, Dieu m'aimait déjà. Qu'est-ce que je peux essayer de conserver et de garder pour que Dieu continue de m'aimer? Évidemment que je veux vivre fidèlement avec lui. Mais Dieu n'a pas attendu qu'on soit à la hauteur de ses attentes pour manifester sa miséricorde ou son amour à notre égard. L'amour au présent de Dieu, ben ce qu'on peut vivre concrètement avec lui, il nous a aimés dans le passé et il nous aime au présent. S'il nous a aimés là où on était les plus laids, il va nous aimer encore présentement. J'aurais pu citer différents exemples de l'amour de Dieu dans des contextes présents. Quand que Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, ça dit le texte qu'il a mis le comble de son amour pour ses disciples en leur lavant les pieds. Et là-dedans, il y en avait un qui ne méritait pas de se faire laver les pieds. Mais il n'y a personne qui méritait de se faire laver les pieds. Mais mettons qu'il y en avait un pire que les autres. C'était qui? Judas. Jésus lui a lavé les pieds. Jésus lui a manifesté qu'il l'aimait. On aurait pu citer aussi le jeune homme riche. Vous souvenez-vous, quand il y a eu cette discussion avec Jésus, il a dit, « Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Il me semble qu'il manque de quoi. » Puis là, Jésus lui a dit ce qu'il avait besoin d'entendre pour communiquer, pour avoir la vie. Puis il ne l'a pas accepté. Il n'en a pas voulu. Puis il retournait de bord. Mais il y a une petite déclaration que ça dit de ce qui se passait dans le cœur de Jésus. Jésus l'aima. Jésus l'a aimé. Même si cet homme-là voulait pas, il était pas intéressé à mettre en pratique ce que Jésus lui demandait. Pierre, après qu'il ait renié Jésus, trois fois qu'il a renié Jésus, est-ce que Jésus l'aimait encore après ça? T'es allé rencontrer Pierre sur le bord de la plage, puis Jésus s'inquiétait, comprenez ce que je veux dire par s'inquiétait, beaucoup plus l'amour de Pierre envers lui que de l'amour de lui envers Pierre. Et c'est pour ça qu'il posait la question à Pierre. « Pierre, m'aimes-tu? Parce que moi, je t'aime encore, puis je veux que tu pètes mes brebis. » Mais il lui a demandé par trois fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Jésus, il nous aime. Dieu, il nous aime. Notre Papa céleste, on peut être sûr de son amour à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Quel pire des gaffes que tu peux faire pour que Dieu arrête de t'aimer. ça ne sous-entend pas que maintenant on peut aller faire toutes les gaffes qu'on veut parce que Dieu nous aime. Mais Dieu va toujours nous aimer malgré nos péchés. Et cet amour-là va nous amener à lui communiquer nous aussi en retour notre amour. Si Dieu nous a aimés dans le passé, si Dieu nous aime au présent, 2 Corinthiens 5,14 nous dit « L'amour de Christ nous presse ». Une autre traduction dit « L'amour de Christ nous étreint ». Vous sentez-vous étreint par l'amour de Dieu? Ou on est entouré par lui? Dieu, il nous donne cet amour-là. Et étant persuadé de l'amour de Dieu pour moi, mais je peux répondre aussi avec amour à ceux qui m'entourent. L'amour que l'Esprit déverse dans mon cœur me donne la possibilité de moi aussi communiquer cet amour-là à mon prochain, à mes enfants. Ce savoir aimer nous porte à aimer aussi à notre tour. Tournez avec moi dans Romains. Peut-être un autre texte que vous connaissez bien, Romains 8. On va lire les versets 38 et 39. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me séparer de son amour? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire qui fait que Dieu ne m'aimera plus? Il y a un chant que j'aime beaucoup, qu'on chante, du célébrant Dieu. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. C'est l'amour de Dieu qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Romains 8, 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature » ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. On peut être sûr de l'amour de notre Papa Céleste. Il va toujours t'aimer. Il va toujours t'aimer. Quoi que tu fasses, il sera toujours là. Dieu m'apprend que l'amour d'un Père fait toute la différence. Ce que Dieu me communique à chaque jour, de son amour en toutes circonstances, Dieu m'apprend que l'amour d'un père fait une grande différence. Comment est-ce que mes enfants, et je parle à nous en tant que papa, puis ça peut concerner certainement les mamans aussi, mais comment est-ce que mes enfants peuvent avoir la certitude à leur tour de mon amour? Comment est-ce que je peux leur communiquer? Dieu, en tant que papa, nous communique sa constance dans l'amour. Il nous a aimés. Peu importe qu'est-ce qu'on avait fait, il nous a aimés. Il nous aime, puis il nous aimera toujours. Est-ce que mes enfants peuvent avoir cette certitude-là et grandir avec la paix dans leur cœur, d'un amour constant, comme ce que mon Papa Céleste m'a enseigné? Une deuxième certitude que l'on peut avoir de notre Papa Céleste, qu'on peut toujours compter sur lui, c'est à cause de la certitude de sa présence. Dieu est là. Papa, il est toujours là. C'est un petit garçon qui voulait déplacer, à un moment donné, une grosse pierre parce qu'il est en train de se faire un camp et il a besoin de déplacer la grosse pierre. Et puis, il essaie tous les moyens pour qu'il lui est possible pour essayer de déplacer cette pierre-là. Il va essayer de forcer dessus, pas capable. Il va essayer d'aller chercher un levier pour prendre une branche puis essayer de tasser cette pierre-là, puis il est pas capable. Puis son père, qui le voyait forcer après cette roche-là comme ça, va s'approcher près de lui puis lui demande « Est-ce que ça va? » Le petit garçon, il explique « Je suis pas capable de tasser la grosse pierre, faut que je la tasse. » Et puis là, son papa lui dit « Ben, est-ce que tu as tout essayé? » « Ben oui, j'ai tout essayé. » Puis le petit garçon, il est tanné, il est au désespoir. Puis le papa lui demande « Est-ce que tu as essayé toutes les ressources qui sont à ta disposition? Est-ce que tu m'as demandé de t'aider? » Le papa est là pour aider son enfant. Notre Père Céleste est là pour nous aider. Et trop souvent, on est par nos propres moyens, avec nos branches, avec nos propres forces, à essayer de déplacer des choses. Puis on oublie que notre papa, il est là. Notre Père Céleste. On oublie des fois qu'on ressemble beaucoup plus à nos enfants par rapport à Dieu, que ce qu'on peut ressembler en tant que papa par rapport à nos enfants. On a besoin de notre Père Céleste constamment. constamment. Papa, il est là quand tu as besoin de lui. Papa est là même quand tu n'as pas besoin de lui, parce qu'il veut passer du temps avec toi. Papa, il est là pour partager des bons moments avec toi. Papa, il est là aussi pour t'accompagner dans les moins bons moments. Peut-être dans les vallées que tu peux traverser. C'est notre Père Céleste. 2 Corinthiens, excusez, je ferai pas tourner, je vais vous faire tourner dans un autre texte. Mais 2 Timothée 2,13 nous dit que si nous, on est infidèles, lui demeure fidèle. Notre papa est toujours là. Il est toujours là, même si nous, pendant un instant, on n'y est plus. Il y a un autre texte dans Romains 3, versets 3 et 4 qui dit, et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Ne pas croire que Dieu est là ou que Dieu est fidèle, ça change pas le fait que Dieu y est là, que Dieu est fidèle, même s'il y en a qui ne croient pas cela. Tournez avec moi dans Lamentations. Si vous trouvez Jérémie, vous allez trouver tout de suite après les Lamentations de Jérémie. Les alliances que Dieu a faites avec son peuple, avec les hommes, communiquent d'un intérêt paternel ou communiquent un intérêt que Dieu veut avoir une relation avec nous. Ça communique que Dieu a un intérêt d'être présent au sein de son peuple. Ça communique que Dieu a un intérêt d'être présent au sein de son Église. Ça communique que Dieu a un intérêt d'être présent dans ta vie. Les diverses alliances, on aurait pu en citer plusieurs, juste avant qu'on lise dans Lamentations, Deutéronome 7,9 dit, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. » Dieu est toujours là. Dieu est toujours fidèle et il ne manquera jamais d'être là pour nous accompagner. Lamentations 3, verset 18 à 24. Jérémie dit dans son cœur, et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Il commence à perdre courage, il commence à être découragé. Il commence à penser pendant un temps que Dieu a abandonné son peuple. Il a abandonné Jérusalem, est en train d'être détruite. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est que plutôt que de croire ce mensonge-là, on va croire ce qui est vrai. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Même quand Jérémie, pendant un temps, est en train de penser que Dieu a abandonné son peuple, il s'arrête et il dit c'est faux. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, ne sont pas épuisées. Papa, il est encore là. Papa, il est au contrôle. Notre Père Céleste est présent. Et quand on se lève le matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent aussi. La bonté de notre Papa est encore là pour prendre soin de nous. Matthieu 6, verset 8 dit, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Il parle de notre Père Céleste. Notre Père Céleste sait très bien ce qu'on va lui demander avant même qu'on lui fasse la formulation. Toujours dans Matthieu 6, le verset 31 à 32, il dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça chez vous. Là, moi, sûrement, ce midi, mais qu'on arrive à la maison, mes enfants vont dire, « C'est quoi qu'on mange? Hein, c'est quoi qu'on peut boire, papa? » Mais on s'inquiète souvent comme ça ou on pense qu'en tant qu'enfant, qu'on a toute cette lourdeur, cette responsabilité que de pourvoir à nos propres besoins. Puis Dieu est en train de nous replacer les gens en face des trous en disant, « Je suis votre papa. Je vais prendre soin de vous autres. » Puis cette attitude-là que de penser, regardez, je vais continuer de faire la citation, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Notre papa, il connaît nos besoins. Notre papa, il connaît nos requêtes avant même qu'on lui demande. Et on peut être sûr de sa présence. Si Dieu connaît tes besoins, c'est parce qu'il est présent. Avec Dieu, on manquera jamais de rien. Avec Dieu, on sera toujours en sécurité. Parce qu'il est là. Parce qu'il est présent. Devant une telle fidélité devant notre Père, on devrait persévérer dans la confiance en Dieu et lui rester fidèle. Qu'est-ce qu'un père peut souhaiter pour ses enfants? Il y a plusieurs pères parmi nous, plusieurs grands-papas parmi nous. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour nos enfants, pour nos petits-enfants? Il y a bien des choses qui sont au fond de notre cœur qu'on désire pour eux. On n'a pas le contrôle d'aller leur placer dans le cœur. On n'a pas le contrôle d'aller pouvoir faire les choix pour eux. Mais on a un désir certainement paternel que de communiquer, oui, notre présence, mais de communiquer aussi ce qu'on souhaite pour leur vie, ce qu'on désirerait pour eux. Dieu nous fait la même chose en nous montrant qu'il est toujours présent et en nous communiquant ce qu'il désire pour nos vies, pour demain. David, quand il était sur son lit de mort, disait à son fils Salomon ce qui lui avait de plus cher à son cœur pour son fils. Que ton cœur soit tout entier à l'Éternel. Que ton cœur soit tout entier à l'Éternel. Certainement, c'est un désir qu'en tant que papa, qu'on devrait chérir dans nos cœurs, que nos enfants, que nos petits-enfants, que nos arrière-petits-enfants, que leur cœur soit entier à Dieu, au papa. Peut-être que je pourrais souhaiter en tant que papa aussi pour mes propres enfants qu'ils fassent des bons choix. Un bon choix de conjoint ou de conjointe. C'est quelque chose qu'un papa ou une maman va s'intéresser. En tant que papa, on pourra avoir ce désir-là envers nos enfants qui vont pratiquer certaines vertus, comme le service, comme la bienfaisance, la fidélité. On aimerait aussi, en tant que papa, leur préparer un avenir puis les accompagner dans leur présent. Mais c'est le même désir que Dieu a, que notre Papa Céleste a pour nous, ses enfants. Jérémie 29, 11, que vous connaissez peut-être par cœur, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. » Notre Papa, il est là pour nous exaucer en son temps. Notre papa est là pour nous affermir dans la foi. Notre papa est là pour nous donner sa bonté. Notre papa est là pour nous garder et pour nous protéger. C'est la certitude de la présence de notre papa. Le peuple n'a jamais manqué de la présence de son Dieu, de l'Éternel. Jamais Dieu a abandonné son alliance parce que ça y tentait plus. Dieu a toujours été présent pour son peuple. Jamais l'Église a été trompée par Dieu. Toujours Dieu a été présent pour son Église. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous aussi. Jamais on sera trompé par Dieu. Jamais on sera abandonné par Dieu. Notre papa est toujours là et on peut en être certain. Dieu m'apprend que la présence d'un père fait toute la différence. La présence de mon Père céleste fait la grande différence dans ma vie et dans ma relation avec lui. Comment mes propres enfants, en tant que papa, comment est-ce que nos propres enfants peuvent avoir la certitude que je suis là pour eux? Notre Père céleste, on sait qu'il est plus qu'omniprésent. On sait qu'il est disponible, qu'il est présent pour nos vies. Mes enfants pourraient avoir cette certitude que je suis là pour eux à cause de la disponibilité que je peux lui offrir aussi de ce que j'apprends de mon Père céleste. Une dernière certitude que j'aimerais voir avec vous, qu'on peut toujours compter sur notre papa, c'est qu'on peut avoir la certitude de son pardon. On peut toujours être sûr, et probablement j'aurais pu en apporter quelques autres aussi, on peut toujours être sûr de son pardon. À un moment donné, un papa, il va coucher son enfant, peut-être 3 ans, je ne sais pas, son petit garçon. Il va le coucher et là, il ferme la porte. Et là, 5 minutes après, il entend « Papa! » « Quoi? » « J'ai soif! » Non, tu as eu ta chance, maintenant c'est dodo. Et là, il passe 5 minutes encore. Papa! Quoi? J'ai soif! Je veux avoir un verre d'eau! J'ai dit non! Si tu demandes encore, je vais devoir te donner une punition. J'ai dit non tantôt, tu as eu ta chance. Et là, il se passe 5 minutes. Papa! Quoi? Quand tu vas venir me punir, tu peux t'apporter un verre d'eau? Même si nos papas nous ont punis pour des petits écarts de conduite comme ça. Même si nos papas nous ont punis pour même des plus grands écarts de conduite. Dans un contexte idéal, on pouvait toujours revenir à notre papa et savoir que notre papa, il venait pas de nous renier comme enfant parce qu'il vient de nous punir, mais qu'on demeure toujours son enfant et qu'il va nous pardonner. Même s'il nous a punis, puis même si pendant un temps la punition, c'est vrai, elle produit pas nécessairement de la joie, mais elle produit un changement de comportement. Mais c'est la même chose avec notre papa céleste, que même quand j'ai péché, même quand j'ai fait quelque chose qui est pas selon sa volonté, puis que Dieu peut-être même va me punir, je devrais pas être découragé. Je devrais pas me dire « ça vaut pas la peine ». Je suis tanné, je refais toujours la même chose. Je devrais peut-être arrêter d'essayer de suivre Dieu. C'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. On peut avoir la certitude du pardon de notre papa. Mes enfants resteront toujours mes enfants. Vos enfants resteront toujours vos enfants. Les enfants de Dieu resteront toujours des enfants de Dieu. Puis ça, Dieu a déterminé la vie, hein? La durée de cette vie-là. Pour la vie éternelle. Pour l'éternité, je serai toujours son enfant quand j'ai placé ma foi en lui. Je me suis repenti de mes péchés. Notre Père céleste connaît nos faiblesses. Il connaît nos manques. Il connaît nos péchés. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on pêche? Qu'est-ce qu'on fait quand on est une fois de plus infidèle dans un péché? Dieu veut qu'on s'approche de lui. Notre papa veut qu'on s'approche de lui puis qu'on lui demande pardon. Parce que le désir de Dieu, c'est quoi? C'est une relation avec toi. Il veut marcher avec toi. Il veut être là. Mais nos péchés, quand ils sont pas confessés, fait pas en sorte qu'on n'ait plus son enfant. Mais nos péchés font en sorte que ma relation avec lui, elle est ternie. Elle est plus idéale dans ce contexte que Dieu veut avoir comme relation avec moi. Notre Père céleste nous connaît. Et il s'attend, oui, c'est vrai, beaucoup de nous. Oui, c'est vrai que les attentes de Dieu sont hautes. Mais il offre aussi son pardon lorsqu'on pêche. Parce qu'il recherche avant tout notre communion avec lui et l'intimité qu'un père aspire à avec chacun de ses enfants. Souvenez-vous qu'est-ce que Jésus a dit à la croix quand il regardait ses bourreaux, quand il regardait le monde l'injurier puis se moquer de lui? Pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. Ça, c'est l'attitude, c'est le caractère de Dieu. Un désir de pardon. Dieu veut te pardonner. Est-ce que tu es sûr de ce pardon-là? Est-ce que tu as la certitude que tu vas toujours l'obtenir, son pardon? J'aurais pu citer le pire roi de Juda, Manassé. Si vous lisez Manassé dans 2 Chroniques, on ne lira pas ce matin, mais 2 Chroniques 33, Manassé, ça a dit qu'il a fait pire que ses prédécesseurs. Il a fait pire, et puis, oui, il savait c'était qui l'Éternel, mais il est allé vers plein d'autres dieux, et puis même s'il devait honorer le temple et respecter le temple, il a même pris des idoles qu'il est allé mettre dans le temple à la place de Dieu, et il a été vraiment le pire des rois qu'il y a eu en Juda. Et Dieu l'a puni. Dieu lui a dit c'est assez. Puis il a envoyé un peuple adverse qui est venu chercher Manassé, qui a déporté cet homme-là, puis qui l'a amené dans des chaînes, puis qui était emprisonné dans un autre peuple. Puis quand Manassé a levé les yeux vers le ciel, puis il a dit, c'est vrai, j'ai pas reconnu c'est qui était Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et là, savez-vous ce que Manassé a fait? Je te demande pardon. Il a demandé pardon à Dieu. Pour les pires choses qu'on peut imaginer en idolâtrie, il avait même donné ses fils en sacrifice. Mauvais père, hein? Il a même donné ses propres fils. Mais Dieu l'a pardonné. Dieu a pris Manassé puis l'a ramené dans sa position. Notre désir, c'est évidemment pas de ressembler à Manassé, mais d'avoir la certitude que Dieu veut nous pardonner. Que notre papa, on peut toujours s'approcher de lui et dire « Je te demande pardon, papa. » Quand mon père me châtiait, j'étais triste. J'étais, dans un sens, fortement peut-être attristé dans certaines circonstances, mais quand après ça, je retournais voir mon père et je lui demandais pardon, puis qu'il me pardonnait, bien, la relation reprenait son cours normal, puis on avait une vie familiale et une vie dans le foyer beaucoup plus harmonieuse et agréable. Tournez avec moi, on va tourner dans un dernier texte de Luc 15. On a vu ce matin que notre Papa céleste, on peut être sûr de son amour en toutes circonstances. On a vu que notre Papa céleste, on peut toujours compter sur lui parce qu'il sera toujours là. On est en train de voir présentement qu'on peut toujours compter sur Papa à cause de la certitude de son pardon. Luc 15, à partir du verset 18, vous connaissez l'histoire. Avant que je commence à lire, il y avait un homme qui possédait beaucoup de choses, un papa. Il avait deux fils. À un moment donné, un de ses fils, il dit, « Moi, je m'en vais. Je veux ma liberté. Je suis tanné d'être sous le toit, papa. Je suis tanné. Puis, papa, donne-moi ma part d'héritage. Je m'en vais. » Puis, il s'en va. Puis là, il dépense tout ce qu'il a. Puis, à un moment donné, il arrive une grande famine. Et là, il est mal pris. Ce juif-là doit aller faire l'élevage de cochons. Hein? Faire manger avec les cochons, en plus. Et j'imagine que c'était le plus bas qu'il pouvait aller. Et là, il a dit en son cœur, regardez verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il est en train de dire, j'étais bien finalement chez papa. J'étais tellement bien que même considéré comme un ouvrier, je vais être encore bien. Il traitait bien ses ouvriers, papa. Et il se leva et il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Cette histoire-là nous est racontée par Dieu, dans la personne de Jésus. Jésus est en train de nous raconter le caractère d'un papa qui est le sien, qui est le sien, de notre, le caractère de notre papa céleste. Qu'est-ce qui arrive si à un moment donné, un de ses enfants, il s'en va, puis prend plus plaisir, si je peux dire, ou il est infidèle pendant un temps, comme on disait. Le père, il voit au bout du champ. Peut-être qu'il y a cette aspiration-là de regarder au plus loin possible à chaque matin, de voir si son enfant ne va pas revenir. Puis quand son enfant revient, qu'est-ce que le papa a fait? Il ne l'a pas attendu de pied ferme. Il est allé courir devant lui. Puis il a sauté au cou. Puis il l'a peut-être tourné une couple de fois dans les airs, on ne sait pas. Là. Et puis là, il l'a embrassé, puis il lui a donné sa compassion. Il lui a donné son accueil. Son fils lui a demandé pardon. J'ai mal agi avec toi. Puis son fils est même prêt à dire, traite-moi plus comme un enfant, traite-moi comme un de tes ouvriers. Puis le papa, non, t'es mon enfant, t'es mon fils. Puis je vais te traiter comme tel. Et il s'est réjoui. Ça, c'est le caractère de notre Père céleste, qu'on peut avoir la certitude de son pardon. Quel privilège que l'on a d'avoir un papa comme ça, que toujours on peut s'approcher de lui, qui sera toujours là, qui nous aimera toujours, qui sera toujours prêt à nous pardonner malgré nos écarts de conduite, nos péchés. Si nous péchons, on a un avocat auprès du Père. Et quand on confesse nos péchés, Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu sera toujours fidèle et juste pour nous les pardonner. Qu'est-ce que l'attitude du pardon de Dieu m'apprend à moi en tant que papa? Comment est-ce que mes propres enfants peuvent avoir cette certitude que je vais leur pardonner quand ils vont venir me voir? Notre papa, il nous aime. Notre papa, il est présent. Notre papa, il veut nous pardonner. Voici ce que notre Père céleste nous enseigne. Il nous apprend. Il nous communique à tous les jours en tant qu'enfants de Dieu. Et qu'à travers cet exemple-là, il nous donne la possibilité de reproduire ce même comportement-là aussi. Vous avez raison des fois de penser que le rôle de papa, même le rôle de maman, est difficile. Pour plusieurs d'entre vous, vous l'avez expérimenté. C'est pas toujours facile. Puis je pousserais même le bouchon un petit peu plus loin. Jésus, il disait, il nous demande d'être parfait comme notre Père céleste est parfait. La marche est haute. Mais Dieu nous communique tout ce que l'on a de besoin pour reproduire ces comportements-là. Il ne faut pas se décourager dans nos rôles. Il n'est pas trop tard. Peut-être qu'on pourrait se dire, je suis dans une période où mes enfants sont déjà élevés. Il n'est jamais trop tard pour reproduire le comportement du Père céleste pour nous aussi être un papa, même une maman. Qui représente ou qui reproduit le comportement que notre Père Céleste nous donne. On se sent peut-être écrasé trop souvent et on peut être trop dépendant de ce qu'on peut faire ou trop peu confiant en notre Père Céleste, de ce qu'il peut faire à travers nous. Mais on peut se confier en Dieu, dépendre de lui, de ce qu'il peut nous communiquer comme ressource. Je disais tantôt, en introduction, que si on peut se rappeler en tant que père et en tant qu'enfant de Dieu, que si la marche est haute pour devenir un père terrestre idéal ou un enfant de Dieu idéal, les ressources divines sont illimitées pour dépendre de lui. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Ta parole nous dit, Seigneur, que on peut t'appeler père, on peut t'appeler papa. Tu nous donnes pas seulement la vie physique, tu veux nous donner la vie éternelle. Et à partir de l'instant, Seigneur, même où tu nous fais entrer dans cette grande famille qui t'appartient, dont tu es le Père, tu nous communiques à chaque jour la certitude de ton amour en tant que bon papa. Tu nous communiques la certitude de ta présence paternelle. Que tu seras toujours là avec nous, puis qu'on pourra toujours compter sur toi. Et tu nous communiques aussi la certitude de ton pardon, pour pas qu'on se décourage, pour pas qu'on abandonne, mais pour qu'on puisse toujours revenir à toi, parce que ton désir, en regardant, Seigneur, au bout du champ, c'est que de venir nous rejoindre, de venir vers nous pour nous pardonner. Qu'on puisse retrouver cette relation-là, Seigneur, dans son idéal. On veut te louer parce que tu es un bon papa. Et Seigneur, on veut te prier aussi pour chacun des papas, des grands-papas qui sont ici. On a besoin de toi. On a besoin, Seigneur, que tu nous accompagnes. Nos ressources humaines sont bien limitées. On est bien imparfaits souvent. Mais on veut dépendre de toi. Tes ressources sont illimitées. On veut reproduire ce que tu es dans nos propres vies. Viens-nous en aide, Seigneur, pour qu'on puisse être ses pères à ta ressemblance. C'est au nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen.